En retour sur le plateau d'affaires suivante pour le cold case de la semaine, elle aurait dû avoir 30 ans cette année, la vie de Céline Giboire s'est brutalement arrêtée à l'âge de 16 ans en contrebas d'une falaise sur la place des Corbières à Saint-Malo et sur les trois pistes envisagées, criminelle, accidentelle ou suicide, toujours aucune certitude. Fanny Rion.
Le 28 février 2012, le corps de Céline Giboire, 16 ans, est retrouvé en bas des falaises du parc des Corbières à Saint-Malo. L'autopsie conclut à une mort par noyade. Elle montre de très nombreuses fractures dues à la chute et met également en évidence des lésions de nature sexuelle sur le corps de la jeune fille. La veille, Céline, scolarisée en première, quitte subitement le lycée aux alentours de 12h30. Elle fait du stop et prend la direction de Saint-Malo, 70 km plus loin. En début de soirée, des témoins affirment la voir dans le parc des Corbières. 19h, elle passe un unique appel à sa meilleure amie qui ne décroche pas, puis plus rien. Son corps est aperçu le lendemain matin par des joggeurs en bas des falaises. Un corps situé à une trentaine de mètres de l'impact. La jeune fille est sur le dos, en débardeur, pieds nus. Son sac à main se trouve dans une poubelle du parc, dissimulée sous des branchages. Sa carte d'identité n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs de la police judiciaire de Rennes concluent pourtant, 2 ans plus tard, à un suicide. Impossible, selon la famille de la victime et certains experts, au vu des nombreuses zones d'ombre qui entourent la mort de l'adolescente.
Pouvait-elle seule se déplacer entre le point d'impact et les 31 mètres où on la retrouve ? En passant par-dessus des rochers. C'est ça la question. Pouvait-elle le faire seule, eu égard à son constat lésionnel, ou est-ce que quelqu'un l'a aidé ? Quelqu'un l'a porté ou a déplacé le corps ?
En 2016, la gendarmerie de Rennes récupère l'enquête, un appel à témoins national est lancé, sans succès, depuis, plus rien. La famille de Céline Giboire est toujours en quête de réponse sur les circonstances de la mort de l'adolescente.
Laurent, pour en parler, nous accueillons Cyrielle Adam, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisatrice, autrice de ce livre Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires, revivez l'enquête, paru aux éditions Larousse, et Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour.
Journaliste et présentateur de l'heure du crime, évidemment, sur RTL. Laurent, on dit souvent que les premières heures, les premiers jours d'une enquête sont cruciaux.
Oui.
Là, visiblement, il y a eu beaucoup, et puis on s'y est perdu.
Là, c'est le prototype de la scène de crime qui n'est pas sécurisée comme elle devrait, puisqu'elle est même rendue aux touristes pendant quelques jours. Elle est piétinée, ils viennent récupérer des mégots plus tard. Donc c'est le prototype de ça, et puis c'est le prototype de la mauvaise conviction, puisqu'ils sont convaincus, les enquêteurs initiaux, Jean-Alphonse, qui connaît cette affaire par cœur, ils sont convaincus qu'il s'agit d'un suicide. Donc ils vont d'abord enquêter pour confirmer leur conviction du suicide.
Le suicide, effectivement, c'est ce qui apparaît tout de suite parmi les enquêteurs. Le médecin, il n'est pas très sûr de ce qu'il voit et de ce qu'il peut analyser sur place. C'est très troublant, cette scène, parce qu'on sait que cette jeune femme, elle a dévalé cette pente, ça c'est une certitude. Est-ce qu'elle a été poussée ou est-ce qu'elle s'est jetée depuis la falaise ? Ça, il y a une grande question. On va la retrouver 32 mètres plus loin que le point d'impact. Alors, ça veut dire deux choses. Soit on a transporté ce corps, parce qu'elle a fini par se noyer. Elle est vivante lorsqu'elle touche le sol. Elle est blessée, horriblement blessée, mais elle est vivante. Elle va finir par se noyer dans une espèce de... D'ailleurs, où il n'y a pas beaucoup d'eau. On va retrouver son
corps
dans l'eau. Voilà. Est-ce que c'est elle qui a réussi, en se posant sur un seul bras, à ramper et aller se mettre dans l'eau terminer son suicide, en quelque sorte, ça paraît totalement invraisemblable. Et pourtant, c'est une thèse qui va continuer à prospérer. La famille, évidemment, n'y croit pas.
Ouais.
On va s'apercevoir que c'est pas possible, presque techniquement, mais c'est une thèse qui va prospérer.
Jusqu'à quand elle va prospérer ? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va moins prospérer d'un seul coup ?
Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle juge d'instruction qui est arrivée sur ce dossier, la huitième. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que la famille, les Giboire, se sentent écoutées, entendues. C'est une famille qui a été extrêmement maltraitée par la justice, notamment au tout début de l'affaire. Et là, ils ont l'espoir d'avoir enfin quelqu'un qui va poser les bonnes questions et oser peut-être contredire des thèses invraisemblables.
En me penchant évidemment sur ce dossier, on parle de cette thèse du suicide. Mais il y a quand même des analyses médicales qui sont complètement effarantes et qui vont être contredites. Qu'est-ce que ça dit dans un premier temps ? Qu'est-ce que ça dit dans un second temps ? Et comment on explique cette différence ?
Médicalement, c'est vrai que le dossier, il est chaotique et il est effarant. Et on comprend la famille Giboire qui ne s'y retrouve pas et qui ne comprend pas ce qui se passe, puisque la première autopsie, elle est faite assez rapidement. on conclut à peu près à rien. C'est-à-dire que, par contre, le médecin dit qu'elle a sans doute été violée. Oui. Il y a des traces
de... Ce qui est un élément évidemment important.
D'attaque sexuelle.
Qui ouvre l'enquête.
D'attaque sexuelle. Le corps est donné à la famille. Il y a un obstacle judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction d'inhumer qui va durer très peu de temps. Le corps est remis à la famille. Il y a une inhumation. Et Céline Giboire, elle est exhumée 10 jours après l'inhumation.
C'est très rapide.
C'est le seul dossier où je connaisse où il y a une exhumation aussi rapide. Et ensuite, un an et demi plus tard, on va donner à étudier aux gens de l'Institut médico-légal de Paris, qui sont des grands spécialistes, on va donner le dossier pour savoir est-ce que cette jeune femme, est-ce que c'est plutôt le suicide qui prévaut, est-ce que c'est plutôt un acte criminel qui prévaut. Et effectivement, ces spécialistes vont indiquer que c'est sans doute un suicide, et que ces fameuses traces d'agression sexuelle, en fait, ça serait le fait qu'elle ait ripé le long de la falaise, ce qui expliquerait ses blessures. Alors, entre nous, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose.
La contre-perspective.
Oui, parce que les spécialistes ont travaillé sur dossier, uniquement sur dossier, ils n'ont jamais expertisé le corps ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, là aussi, ça va faire long feu. Mais on a perdu beaucoup de temps dans cette enquête, énormément de temps depuis le début.
Il n'y a rien qui va non plus dans l'après-midi de la disparition. Parce qu'en fait, elle quitte son lycée à 12h15.
Elle est interne.
Elle est interne, à Rennes. Elle a aucune raison connue à ce jour de quitter le lycée.
Il y a des petites disputes avec des copines suite à un voyage en Roumanie.
Et puis toute cet après-midi, elle a un comportement un peu anormal avec son téléphone. Elle qui répond tout le temps, on imagine. En 2012, une adolescente de 16 ans, elle est sur son téléphone, elle répond, elle passe des messages. Donc, on voit bien que ce trajet entre Rennes et Saint-Malo et son comportement habituel avec le téléphone fait soupçonner légitimement à la famille quelque chose, bien non sûr. Une mauvaise rencontre.
Mais il y a deux choses qui sont étonnantes. C'est tout d'abord, Céline semble vouloir se rendre à Saint-Malo, mais elle s'arrête à Saint-Dominique, qui est une petite commune qui est située entre Saint-Malo et Rennes. Là, arrivée à Saint-Dominique, elle prend en photo le plan de la commune.
Le panneau d'entrée, oui.
Personne ne comprend pourquoi elle fait ça. Pourquoi est-ce que ce panneau est important? Si elle prend une photo, c'est que le panneau a une importance pour elle à ce moment-là. Et la deuxième chose qui est quand même très étrange, c'est qu'on sait qu'elle n'a pas pris le bus, de manière à peu près certaine, et personne n'a jamais dit « j'ai pris cette jeune fille en stop ». Il y a des témoins qui disent « je pense l'avoir aperçue le long, au bord de cette fameuse... route départementale, mais personne n'a jamais dit « je l'ai emmené jusqu'à Saint-Malo ».
Avec les téléphones, on ne peut pas suivre des téléphones, le sien et un autre.
Alors le téléphone, il n'a pas été totalement expertisé, là aussi c'est un
mystère. Ça fait partie des problématiques.
Ouais. C'est un mystère, etc. On sait que la téléphonie, elle donne ce cheminement, elle le donne, entre 12h32 et 18h52, très exactement, c'est là où elle appelle sa copine Audrey.
Il ne répond pas, malheureusement.
Audrey ne répond pas, Audrey est en train de faire ses cours, etc., ses devoirs, et elle ne répond pas parce qu'elle est occupée. Donc, elle rate cet appel, qui a l'air important, puisqu'elle appelle Audrey, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'elle est aperçue par des témoins à Saint-Malo. Là, on est déjà à Saint-Malo, on ne sait pas du tout comment elle est arrivée à cet endroit-là. Il y a une femme qui va dire la voir sortir d'une voiture, et puis il y a un couple... intéressant, le couple, puisqu'il va se retrouver en garde à vue, un couple qui la voit fumer des cigarettes sur un banc. Voilà, on est dans la soirée.
Toute seule ?
Toute seule. Et elle pleure. Toute seule et elle pleure. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ces témoignages, ils sont plutôt dignes de foi. On va retrouver 3 mégots de cigarettes qu'elle a fumées. Également, un autre mégot de cigarette qui appartient à la femme du couple qui a l'habitude de venir fumer ici. Donc, voilà. Donc, tout ça est très, très, très mystérieux. Quand vous disiez tout à l'heure, ce sont les premières heures qui comptent dans une affaire, là, ce sont les premières minutes. Parce que les premières minutes, on les perd. On les perd tout de suite. On ne sait pas ce qu'elle a fait à la sortie du lycée.
Qu'est-ce qui fait que ce couple, qui est placé en garde à vue, est totalement blanchi? Et qu'est-ce qui fait qu'on a évoqué aussi comme suspect un homme et que lui aussi... est totalement blanchi, d'un comme l'autre.
Le fait que toutes ces personnes soient mises hors de cause, c'est le reflet parfait de tous les loupés de ce dossier. C'est-à-dire qu'on ouvre des pistes, qu'on les referme jamais totalement parce qu'on n'a pas d'éléments. Effectivement, on a ce couple qui est mis en garde à vue. Lui, il est connu de la justice, défavorablement.
Dans une histoire d'homicide.
Tout à fait. Mais ils sont placés en garde à vue 8h45, ce qui est extrêmement court quand même dans ce genre de dossier.
C'est 24 heures plus 24 heures, sous contrôle de l'an.
Là, ça va très vite. Ils sont mis hors de cause parce que, mis à part ce mégot d'ADN et une revue de presse pour le moins obscure qu'on retrouve à leur domicile, concernant Céline Giboire, Il n'y a absolument rien.
Et leur réponse est assez, quand on leur dit, mais pourquoi vous avez ces documents-là sur Céline Giboire, qu'est-ce qu'ils répondent,
Jean-François? Alors, c'est vrai que chez eux, on trouve tout le dossier Céline Giboire, hein, qui est surligné, etc., annoté. Ouais. La femme va répondre, je suis passionné de faits divers. Voilà. Donc, ça va être une réponse, on va s'arrêter là. Il y a plus intéressant, je pense, c'est le jeune homme. Ouais. Il a 21 ans et il s'appelle Florian Varin, on peut le dire, bien parce sûr. Que c'est lui qui a été condamné pour des viols, etc. Un peu plus tard.
Et tentative de meurtre.
Donc ce garçon, il est très intéressant. 8 mois après la mort de Céline Giboire, il va attirer l'attention parce qu'effectivement, il a violé une femme à Toulouse. Il va être arrêté et on va s'apercevoir qu'à l'époque, il est dans le secteur entre Saint-Malo et Rennes. Il travaille comme apprenti mécanicien dans un petit garage du coin. Il est très charmeur, Florian Varin. C'est quelqu'un qui n'agresse pas directement les femmes comme ça. Il est très affable, très charmeur. Il arrive à se mettre souvent ses victimes dans la poche. D'ailleurs, le papa de Céline va dire « Elle aurait pu, effectivement,
se laisser avoir
par cet homme parce qu'elle ne se méfiait pas, ma fille. » Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Bon, cette piste, pareil, il va être entendu. Lors du procès, on va même lui poser des questions là-dessus. À ce jour, il n'y a rien. À ce jour, on ne trouve pas de correspondance, à part la correspondance géographique et physique.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Jean-Alphonse, que cette affaire soit débloquée?
Il faudrait, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, mais je pense qu'il y a tout un travail sur l'ADN qui est à faire. Il y a beaucoup d'objets de Céline qui ont été retrouvés, notamment une carte vitale dans des rochers, etc. Là, il y a un vrai travail à refaire, un vrai travail d'expertise et puis de recoupement géographique, encore une fois, de possibles suspects. Je pense qu'il faut revenir sur les gens qui ont déjà été entendus, les réentendre, etc. Mais la juge d'instruction... Vous le disiez, elle est très efficace, elle a envie de progresser.
En sachant que ce dossier a quand même une faille aujourd'hui, qui est que dans tous les scellés qui avaient été récupérés à l'époque, certains d'entre eux ont été détruits, notamment les mèches de cheveux qui appartenaient à Céline, ces scellés ont été détruits. Donc l'ADN, c'est bien, mais on part avec une nouvelle complexité encore qui vient s'ajouter.
Ça fait partie souvent des dossiers, on dit l'auteur des faits est dans le dossier, on le connaît. Ça ressemble un peu à ça quand j'écoute...
C'est pour ça que Paul Kolkaes débloque des affaires, parce qu'en réalité, tout notre système judiciaire est fondé sur la Révolution française, un juge d'instruction dans les périmètres d'un département, et la définition du département, c'est une journée de cheval de la préfecture. Donc tout est fait pour qu'on soit tous à une journée de cheval de la préfecture.
Ce que vous dites, c'est pas du tout du deuxième degré ironique.
C'est pour ça que il y a 8 juges d'instruction. Il y a des affaires qui sont complexes. Il y a des homicides où on sait que c'est dans le cadre familial, on va trouver vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Dans le cadre familial, on trouve assez vite. Il y a des affaires qui sont complexes d'entrée. Celle-là, elle est complexe d'entrée. Et d'entrée, elle nécessite une expertise, justement, dans ce qui est ADN, dans ce qui est recherche, dans ce qui est usage des téléphones et tout ça. Et là, ça n'a pas été fait, malheureusement. Le pôle Kolkaes a été créé pour ça, pour essayer de remonter le temps perdu, notamment grâce à des scellés. Mais là, les scellés sont pour la plupart perdus. Et ça marche.
C'est ce que souhaite la famille de Céline, aujourd'hui. Une reprise par le pôle Kolkaes, une évolution, un retour à zéro.
Ils ont maintenant comme avocat Didier Seban qui travaille beaucoup avec le pôle Kolkaes. Mais eux, leur volonté, c'est d'avoir un juge d'instruction qui va être à l'écoute, en fait. Et que ce soit au pôle ou à Rennes, tant qu'ils ont quelqu'un qui va les écouter et qui va aussi leur expliquer pourquoi on fait certains actes, pourquoi on suit certaines pistes et pas d'autres, ça pour eux, c'est primordial aujourd'hui.
Jean-Alphonse, est-ce que vous pensez, c'est une question qu'on vous pose traditionnellement sur le plateau de la Fersen, mais est-ce que vous pensez qu'un jour on saura ce qui est arrivé à...
Je vous coupe tout de suite, je suis très optimiste moi. Moi je pense que dans cette affaire il y a plein d'indices, il y a plein de témoignages, il y a beaucoup de choses dans le dossier. Moi je pense que la vérité elle est dans le dossier déjà, comme très souvent hélas, et on voit pas cette vérité à l'instant, mais bon... On fait confiance à la 8e juge d'instruction. Elle a envie de se battre, c'est une bonne chose.
Cyrielle, la famille de Céline, elle est dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas?
Elle est très combative. Ouais. Ce sont des gens qui n'abandonnent pas, qui ont beaucoup morflé, à qui on a dit « Votre fille a un DVD de Virgin Suicide dans sa chambre, donc c'est forcément qu'elle s'est suicidée ».
Un film avec c'est une famille des sœurs, je crois, qui s'est suicidée en série, pardon, de mémoire.
On n'est pas sur un élément de preuve tangible.
Oui, non, effectivement, on peut avoir vu ce film-là et l'adorer sans...
Et la famille, ce sont des gens qui sont très respectueux de la justice, c'est-à-dire qu'ils ont, envie d'être écoutés, mais si demain on doit leur dire quelque chose qui pour eux est même inentendable, mais si on leur apporte la preuve que c'est que c'est ainsi, ils sont prêts à tout entendre, en fait. Ils veulent juste que la vérité soit faite.
Et c'était le sens aussi de notre invitation. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Je renvoie les téléspectateurs dans le cas de votre livre co-écrit avec Marion Garnier, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires, revivez l'antenne. Merci à tous les deux.